Kelly Boys, il nous reste encore du temps. On a tout ce qu'on a. Let's go!
Salut les boys!
Prince à poulet!
109.1, sport des
sous. Ouais!
Ici Charles Thibert qui vous dit.
Le retour au World Mimes Fight.
Gas, fils de chien, gas de chat.
Ok, fini là! Match nul!
Sup les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Je checkais ça le début de la saison de la LNH. Ouais, c'est un truc que je recycle, que j'avais écrit là, maintenant quelques mois. Hein. Que voulez-vous, hein? On utilise notre bon stock non utilisé. Tu sais, le Canadien a joué contre les Maple Leafs à leur premier match de la saison le 11 octobre dernier. Et il y a de quoi qui m'a frappé, hein? Le monde de la radio, on a jasé un peu, là, un bout, là, puis on jase encore un peu. Mais anyway, Montréal rejoue contre Toronto seulement le 9 mars, c'est-à-dire bientôt, et le 6 avril, ce qui n'est pas normal vu qu'ils sont dans la même division qu'eux. De 1, il y a 150 jours entre les deux matchs, et de 2, tu joues juste 3 matchs contre les rivaux de ta division, ça fait pas de sens. Pour une ligue qui veut miser sur les rivalités, c'est pas tant winner de jouer max 4 matchs contre une équipe de ta division. Surtout que maintenant, la ligue veut s'assurer que chaque club joue au moins 2 matchs contre toutes les équipes de la ligue. Je me souviens, dans le temps, on jouait 8 fois contre Toronto par année, c'était bien meilleur de même, hein? Et on ne s'en insurge plus maintenant, mais la Floride et Tampa Bay sont en ce moment dans la même division que Montréal, Toronto, Ottawa, Buffalo, Détroit et Boston. Hey! Il y a 7 États entre l'équipe la plus proche de la Floride. T'sais, bon, 4 États si on passe par le Kentucky, mais quand même, là. T'sais, la ville de Détroit est techniquement la plus proche de Tampa Bay. L'équipe la plus au nord, soit à environ 2000 km, soit à peu près la distance entre Ottawa et Winnipeg, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nos cousins français, n'est pas à 2 arrêts de bus l'un de l'autre. Je sais que les divisions sont comme ça depuis le transfert des Trashers d'Atlanta à Winnipeg. En fait, 2 ans après le transfert, hein, parce que les Jets ont joué dans la division sud-est pendant 2 saisons jusqu'à ce qu'on change le modèle que l'on connaît aujourd'hui avec Columbus et Détroit qui passent de l'ouest à l'est, ce sera du coup un déséquilibre 16-14 des équipes pour être sûr d'avoir les 2 nouvelles équipes d'expansion dans l'ouest. Well played, Gary. Mais reste qu'avec tout ce remix, on se retrouve avec les 2 équipes de la Floride dans la division des Canadiens. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Je mets mon chapeau de conspirationniste ici, hein? Le hockey en Floride, ça fait pas tant de cash, et le monde qui vont voir le hockey là-bas, c'est des snowboards canadiens en vacances. Donc, plus de matchs contre des équipes canadiennes égale plus de matchs locaux avec des partisans canadiens de l'autre équipe, donc plus d'argent dans les poches, et on peut survivre une autre année avec son équipe de hockey en Floride. Bon, OK. Là, vous allez vous demander, hein? Où je veux en venir avec ça, hein? Le calendrier ainsi que les divisions de la LNH ne font pas de sens. On va alors utiliser notre matière grise pour trouver de belles solutions pour que la Ligue nationale, elle ait enfin des divisions qui ont du sens et un horaire qui se tient. On a œuvré sur 3 idées d'alignement, de réalignement, devrait plutôt dire. Donc ça laisse le choix à la Ligue de choisir la pire option des 3 parce que, entre vous et moi, c'est ce qui arriverait. On commence avec notre première idée, inspirée de la formule NFL, soit 8 divisions de 4 équipes qu'on va regrouper ici selon leur géographie. Fait que selon ceux qui sont plus proches, hein, vont être dans la même division. Hein. J'ai concept révolutionnaire, je sais. Donc, dans la conférence S et dans la division Nord, on retrouve Buffalo, Montréal, Ottawa et Toronto. La division métropolitaine avec Boston, New Jersey et les 2 New York. La division Appalaches, ouais, on y va all-in hein, dans la thématique géographique, avec Columbus, Philadelphie, Pittsburgh et Washington. Et pour finir avec la division Sud composée de la Caroline, de la Floride, de Nashville ainsi que de Tampa Bay. Pour la conférence Ouest et dans la division Côte-Ouest, on a Anaheim, Los Angeles, San Jose et Vegas naturellement. Dans la division Rocheuse, c'est Calgary, Edmonton, Seattle et Vancouver. Dans la division Désert, on a Arizona, Colorado, Dallas et Saint-Louis, même s'ils ne sont pas dans le désert, mais c'est pas grave. Et pour finalement finir avec la division Grand Lac avec Chicago, Détroit, Minnesota et Winnipeg. Niveau horaire, vu que la LNH veut qu'on joue au moins une partie à domicile contre chacun des clubs de la Ligue, on n'a pas vraiment le choix d'inclure ce critère. Coup dur pour notre objectif d'augmenter les matchs de division, mais on garde le cap quand même. Donc, si on prend par exemple les Sabres de Buffalo. Dans leur saison, ils joueront 2 matchs contre les équipes de la conférence Ouest, ce qui équivaut à 32 parties. 3 matchs contre les équipes des 3 autres divisions de la conférence S pour 36 parties et 4 matchs contre les 3 rivaux de leur division, la division Nord, pour 12 parties, pour un grand total de 80 parties. Oui, sacrilège, en a 2 de moins. Hein. Hey boy. Pour les séries, les premières divisions font les séries et affrontent les cartes sauvages, wild card, équipe repêchée, whatever, hein, les 5e, 6e, 7e et 8e meilleures fiches de la conférence et les champions de division les affrontent selon leur ordre de classement. Le hic de cette formule-là, c'est que ça change pas tant le modèle du moment, hein, à part qu'on élimine le 2 contre 3 dans les séries, ce qui serait un gros plus, car oui, ça ferait un meilleur spectacle en première ronde en tant que tel, mais ça tue le show pour les rondes suivantes, hein, tu sais, quand le 2 élimine le 3, ben c'est ça, hein, ça élimine des bonnes équipes, c'est ça qui arrive, hein. Aussi, il y a juste 4 matchs contre les rivaux de division, hein, ce qui va un peu en l'encontre de notre objectif, mais plus petite division, donc plus facile à suivre en tant que tel. Deuxième idée, la formule Ron Fournier. Il y a bien longtemps, dans une radio lointaine, très lointaine, Ron Fournier a mentionné sur les ondes quelque part entre 2011 et 2016 que les plans de la LNH c'était d'avoir 33 équipes avec 3 divisions de 11 équipes. Comme je suis le seul tarlac qui se rappelle de ça et que ça serait l'idée de la Ligue à la base, je n'ai pas même le choix de vous la présenter. C'est si obscur comme référence à sortir maintenant qu'on peut presque dire que c'est une exclusivité. Hein. Notre podcast ne cesse de dépasser les limites. Watch out, hein, le mois prochain, on va commencer à avoir des invités et faire des entrevues en posant des questions sur des trucs qu'on sait déjà. Donc, 3 conférences. Dans l'Est, Boston, Buffalo, Montréal, New Jersey, les 2 New York, Ottawa, Philadelphie, Pittsburgh, Toronto et Washington. Dans la centrale, la Caroline, Chicago, Columbus, Dallas, Détroit, Floride, Minnesota, Nashville, Saint-Louis, Tampa Bay et Winnipeg. Dans l'ouest, Anaheim, Arizona, Calgary, Colorado, Edmonton, Los Angeles, San Jose, Seattle, Vancouver et Vegas. Et là, il en manque une équipe, fac, ah ouais donc, si l'Utah, hein, parce que, ouais, c'est ça, parce que fuck you. Pour les matchs, c'est pas trop compliqué. 2 matchs contre des équipes des autres conférences, ce qui donne 44 parties. 4 matchs contre des équipes de ta conférence, ce qui donne 40 parties pour un total de 84 parties. Voyez comment avec la Ligue SMTD, 2 parties de plus par équipe, donc plus d'opportunités de faire de l'argent. Bon, évidemment, là où ça vient jerky, c'est rendu en série. Hein? Qui se classe comment, hein? 3, c'est pas un beau chiffre pour des tournois. Hein? Comment qu'on fait faire fitter les 3 conférences? On va dire que les 4 premiers de chaque conférence font les séries, ce qui donne 12 équipes. Et les 4 dernières places disponibles, les wildcards, sont réparties dans les 3 conférences selon leurs fiches. Tiens, rajoute 2 autres places, on va faire un play-in avant les séries comme dans NBA, hein, ça va faire du cash flow. Donc, une fois qu'on a nos 16 équipes, et vu qu'il y a 3 conférences, on va y aller avec un classique 1 contre 16, 2 contre 15, etc. Donc, on pourrait enfin avoir un duel Floride-Arizona en série sans espérer que ce soit une finale de la Coupe Stanley. Au final, c'est une formule intéressante, mais le fait que c'est un nombre impair de conférences, ça vient un peu fucker le chien. Hein? Mais, on a pensé à... Mais, on pense avoir trouvé la solution idéale si la Ligue veut aller dans cette optique-là. Une chance, j'ai recommencé parce que ça fait plus de sens maintenant. Troisième proposition, c'est la formule NFL. Bon, je sais, on l'a fait tantôt, mais là, c'est la formule True NFL, où on va plutôt miser sur le Commercial Potential des divisions, soit créer des divisions pour maximiser les revenus et la visibilité. Attention, boomers, certaines associations d'équipes vont vous faire scier les oreilles. Alors, dans la conférence le mieux, qui équivaut à l'Est, on retrouve dans la division Nord Montréal, Ottawa, Philadelphie, Pittsburgh. 2 duos de rivalité et en un, hein, ça serait épique, right? Bon, si Québec était dans la Ligue, il serait à la place d'Ottawa dans la division, mais cette crique ne sert pas à glorifier le retour. On a un segment d'une minute là-dessus tantôt, ou pas, parce que ça se peut que je le coupe. Dans la division S, s'alignent Boston, New Jersey et les 2 New York. Hein? Faut bien que les 3 équipes de la région de New York fassent un peu de route quand même. Hein? Et il y a 2 franchises fortes dans la division, ce qui est un plus dans la Ligue, pour la Ligue. La division Ouest de la conférence le mieux est composée de Buffalo, Chicago, Détroit et Toronto, et la division Sud de Caroline, Columbus, Floride et Washington. Ouais, ok, bon, ça c'est la seule division de marché de hockey so-so des 8, hein, inquiétez-vous pas là. Okay. Et là, si vous avez bien suivi, hein, il y a des équipes qui étaient dans l'Ouest qui sont rendues dans l'Est et vice-versa. Ben oui, puisque dans la conférence Gretzky, conférence WES pour les intimes, on retrouve dans la division S de la conférence Gretzky, qui est dans la conférence WES, en tout cas, suivez-moi là, avec Dallas, Nashville, Saint-Louis et Tampa Bay. Ouais, on a séparé les deux Floridiens, les deux équipes floridiennes sans remords. Hein. Tampa est plus proche de ces trois villes-là, anyway. Dans la division Nord, il y a Calgary, Edmonton, Minnesota et Winnipeg, où ces derniers seront enfin dans une division relativement proche du Manitoba. Anaheim, Arizona, Los Angeles et San Jose sont dans la division Sud, quoique je sais pas à quel point l'Arizona va rester là longtemps. Anyway, la huitième dernière division, l'Ouest, on retrouve Colorado, Seattle, Vancouver et Vegas. Seattle et Vancouver sont techniquement plus proches de Calgary et Edmonton, mais fuck off, on veut faire du cash, donc il faut miser sur les équipes canadiennes dans le plus de divisions possible. Et là, il y en a 4 dans 8, ce qui est pas pire. Et comment on divise les 82 joutes de la saison? Bon, 2 matchs contre les équipes de 6 divisions pour un total de 48 parties. 4 matchs contre une division de sa conférence qui s'alterne d'année en année pour un total de 16 parties. En gros, je sais que c'était pas clair, mais je le répète. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir. En gros, si les Devils du New Jersey de la division S jouent 4 parties contre les équipes de la division Ouest, l'année suivante, ils vont pogner la division Nord, puis la Sud l'année d'après, et ainsi de suite. Bref, comme dans la NFL. Et ça nous laisse 6 matchs contre les 3 équipes de sa division, ce qui donne 18 parties. Hey, c'est beaucoup ça, yes! Mais on s'arrête pas là! Dans le but de rehausser l'intérêt de maximiser les rivalités, donc des bons matchs au final, on va implanter le concept du back-to-back pour les duels entre les équipes. Que ce soit 2 matchs en 2 soirs ou 3 soirs. Le principe, c'est de faire des séries de matchs comme contre la même équipe, un peu comme au baseball. Comme ça, la fameuse violence au hockey peut se transporter dans le match qui suit. Plus besoin d'attendre 3 mois avant de réaffronter les Hurricanes parce qu'ils nous ont volé Kotkaniemi. Et on va s'assurer que tu joues contre les équipes d'une même division dans le même laps de temps. Un peu confus, c'est normal, je t'explique ça en seulement verbal sans voir de tableau. On clarifie le tout avec un exemple. Yeah! C'est le mois d'octobre et la division Nord de la conférence le mieux, on se rappelle, hein? Montréal, Ottawa, Philadelphie et Pittsburgh affrontent la division Ouest de la même conférence, Buffalo, Chicago, Détroit et Toronto. Montréal a un match à domicile le 1er octobre contre Buffalo, puis le lendemain à Buffalo. 2 jours plus tard, le 4 octobre, Montréal joue à Toronto et complète le duel à Montréal contre Toronto le 6 octobre. Détroit est en ville le lendemain. Montréal se déplace à Ottawa pour son match contre eux le 10 octobre. Direction ensuite Chicago le 13 octobre et on finit les affrontements contre la division Ouest à Montréal contre Chicago le 15 octobre. Donc, ça fait 8 parties en 15 jours. Tu affrontes les mêmes adversaires 2 matchs de suite et pendant que Montréal joue contre Buffalo, ben Ottawa pogne Chicago, Philadelphie, Détroit et Pittsburgh, Toronto. Tout ça permet de 1. Minimiser tes déplacements. 2. Tu peux faire de la pub sur le concept de division contre division. Et 3. Ça te rapproche du truc qui est le plus intéressant et qui marche le mieux dans la ligue, soit la première ronde des séries. Ça paraît-tu que j'ai mis plus de temps à penser sur cette formule-là, hein? Je pense que ça aiderait aussi à la conception des horaires. Évidemment, ça prend pas en compte la disponibilité d'aréna, ce modèle-là, mais le principe reste que tu veux affronter les 4 mêmes équipes 2 fois dans l'espace d'environ 2-3 semaines. Et là, on s'entend que quand Montréal va jouer contre la division avec les équipes de la côte ouest, il n'y aura pas d'aller-retour de la sorte. Hein? Les équipes de la division vont aller jouer leurs 4 matchs là-bas, puis revenir à la maison pour recevoir ces mêmes équipes une à suite de l'autre. On n'est pas fou ici, hein? Même si on parle au on quand il y a juste une personne qui travaille vraiment sur ce magnifique podcast. Niveau série, comment ça marche? Tout simple. Le premier de chaque division accède aux séries. Ensuite, c'est les 4 meilleures fiches de la conférence qui vont avoir leur billet pour la danse printanière. Expression weird à utiliser quand on y pense. Et pas d'affaire que les premiers de division ont l'avantage de la glace. Non, ça te garantit juste une place en série, pas un rang. Donc, si tu n'as pas une bonne équipe, mais que tu fais une série par défaut vu que les autres de ta division sont plus à chier, ben too bad buddy, tu vas être au 8e rang et tu vas pogner les meilleurs. Voilà ce qui complète le tour de nos trois propositions de réalignement des divisions et de l'horaire. On a une préférence pour la formule True NFL Commercial Potential, mais entre vous et moi, la NH risque de prendre l'option qui a le moins de sens, soit la formule Run Fournier à trois conférences, parce que ça serait parce que c'est leur idée en plus. Hein. Donc, on fait une petite pause publicitaire et au retour, le retour après une grande année de pandémie, d'un classique de match nul. Vous allez voir, c'est à ne pas manquer.
Vous croyez qu'humour et sport ne feront pas bon ménage? Un homme peut vous prouver le contraire. Venez assister tous les lundis soirs à la cage de Joliette au légendaire stand-up humoratico-sportif de Paul le comique.
Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais Canadien à l'envers, ça fait Snedanak, hein? C'est aussi dur à prononcer que Redba, le gars qu'on a repêché, hein? C'est comme un joueur tchèque.
Le stand-up comique de l'heure qui vous dilatera la rate grâce à sa grande répartie.
Hé, hey, le groupe là-bas dans le fond, à côté de la machine à sous, vous venez d'où?
Longueuil.
Hé, hey, Longueuil, hein, comme l'équipe junior, le collège français, hein. Hé, hey, du coup, le palais Lacrosse dans la mitaine.
Ok, il est peut-être pas si hot que ça, mais il a le tour de raconter des anecdotes savoureuses.
Hé, hey, l'autre jour, j'étais au stade, pis... En tout cas, c'est bien drôle.
Tellement médiocre que ça devient bon. Un spectacle à ne pas manquer.
L'autre fois, c'est deux gars qui jouent au baseball, puis il y en a un qui dit à l'autre, « Hey, ça te tente pas de faire du sport? » Et boy, même ma machine à rire l'a pas trouvé drôle.
Paul le comique. Ouais, venez pas finalement.
C'est le retour de votre émission de chasse et pêche préférée, et comme la plupart des émissions de télévision, elle a dû s'adapter à la réalité de la pandémie. Oui, je sais. Et comme c'est tout le temps en délai qu'on voit les émissions de chasse et pêche, hein, comme ça fait comme genre 4-5 ans qu'ils l'ont filmé, on commence à peine à pouvoir apprécier ces épisodes pandémiques en rediffusion.
La cache avec Michel et Bernard.
Bonjour à toutes et bonjour à toutounes et bienvenue à La Cache, le rendez-vous de chasse et pêche. Ici Fernand la truite à l'air en remplacement de Michel qui a malheureusement pogné la pas capable de se connecter à Stillette.
Ouais, je sais pas dans quel lac a été pêché cet Arturgeon-là.
Non, c'est pas... En tout cas, vous savez, en ces temps pandémiques, on essaie de notre mieux pour vous offrir une émission...
Pandémie, hein? Ça fait un bout qui est terminé.
Brise pas la magie, mon Bernie, hein? On sait pas quand l'émission va passer à la télé, hein?
Mais on est en 2024, pourquoi on ferait semblant?
Mais pour pas brusquer nos téléspectateurs qui sont habitués de voir nos émissions avec 4-5 ans de délai, hein?
Ah, OK.
Donc, Bernie, comment peut-on pratiquer la chasse pendant la pandémie?
Comme toute bonne chasse, faut vous préparer des appâts souterrains dehors chez soi.
Ah ouais? Tu peux attirer les animaux faciles de même?
Ils sortent plus vu qu'on sort moins, t'sais. Fait que là, t'as juste à attendre avec ton 12 à ta fenêtre, puis bang! Du gibier facile pour toute la famille.
En plus, t'habites en Longueuil, ça va pas être trop difficile de pogner du cerf, hein? As-tu fait une bonne récolte de viande?
Ben non, Fern. Faut que t'attendes la fin du couvre-feu. Puis souvent, rendu le lendemain, ben y a un raton laveur qui s'est fait un trou dans la carcasse puis il a élu domicile.
Mais là, t'as-tu essayé de l'enlever?
As-tu déjà essayé d'exproprier une famille de ratons laveurs? T'en as pour des mois à la cour des petites créances animalières, hein?
Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait avec ta prise?
Ben, je l'ai laissé là, hein? Y'a déjà 5 carcasses dans ma rue, hein? Ça commence à devenir un ghetto de ratons, hein? Une place tough, hein?
Ok, en parlant de place tough, on a notre reporter de terrain, Rick, qui a rejoint une réunion d'un groupe amateur de chasse et pêche, pas piqué des verres. Il est en ligne, on le rejoint à l'instant. Rick, il faut que tu te démutes. Non, on t'entend pas payer sur le piton qui a l'air d'une pilule de Viagra dans une coupe de vin. T'es en onde, Rick! Pas autant que la cuisine de la femme à Bernard.
Pas autant la cuisine,
ouais. Rick, parle-nous d'où tu es.
Oui, donc je suis ici sur la Côte-Nord dans une réunion de la meuf.
Et la meuf.
Oh, oui, c'est ça. Hein. Et laissez-moi vous dire que ça laisse pas mal à désirer.
Ah, comment ça?
T'aurais cru qu'avec un logo avec une patte de loup comme ça, ils seraient des experts en traque d'animaux sauvages. Mais non, ils font juste s'asseoir en rond et chialent sur des trucs qui leur dérangent. Hein. Je vous dis ici, pis qu'il y a des filles qui bitent sur le chum de l'autre.
OK, mais c'est quoi leur but, bord?
Attends, je vais leur demander. Hey, les gars! Mm-hmm. C'est quoi le but de votre petit groupe de ma tante?
Parce que nous autres, on veut moins de musulmans radicaux.
C'est quoi ça, une nouvelle sorte d'oiseau?
On n'aime pas ça, les immigrants.
Mais c'est dans de la migration qu'on peut mieux les pogner, les oiseaux, gang d'épais. Ah, mais non, c'est donc ils pourrissent en chasse. Bon, les boys, on va s'arrêter sur l'eau, hein? Je dois leur apprendre les vraies affaires.
Salut!
Prenez vos bottes et vos sucres, on s'en va dehors, ma gang de tarlats!
Bon, ben, on va tout de suite passer à notre prochain segment de débat social. Se débattre comme une truite dans poêle. On accueille d'ailleurs notre débatteur en chef, Jebediah Tanguay.
Je suis là.
Le lac Monique, c'est complètement désasséché ou séché. En tout cas, il n'y a plus d'eau. Puis là, il y a un débat qui fait rage dans la population locale sur la méthode de récupération des poissons qui sont restés au fond du lac. Est-ce qu'on les chasse ou on les pêche?
Ouais, mon Fern, la réponse ici semble évidente. On chasse le poisson.
Mais voyons, mon Jebé, ça se chasse pas du poisson.
Ben, on peut plus vraiment les pêcher, vu qu'il n'y a plus d'eau. Fait que quand tu pognes un animal hors de l'eau, c'est de la chasse. Je vois pas c'est quoi le problème.
Mais c'est de la pêche qui devient de la chasse, pis ça, c'est pas correct.
Chris, je vais pas mettre à me lancer ma ligne sur des roches en espérant pogner un poisson.
Parce que c'est mieux de tirer du gun en visant le fond du lac. Tu vas endommager tes balles, ces roches.
Comment tu oses parler de mes balles, Fernand? Je t'ai dit, j'étais acquitté.
Excuse-moi, je me suis laissé emporter, hein. Quand on mélange chasse et pêche, ça vient me chercher.
Tu sais, les tribus de d'autres pays, comme l'Afrique, eux, ils pêchent en sachant. Ils garochent des lances dans l'eau. Tu veux qu'ils meurent de faim? T'es-tu raciste ou quoi?
Oui, mais c'est pas ça le problème. Il y a bien une raison pourquoi le « et » dans « chasse et pêche » existe, hein? Ça ferait « chasse-pêche » pis ça se dit mal.
Hey, les gars, dans l'Ancien Testament anglican végétalien, hein, la chasse, c'était pas un péché capital. Donc la chasse, c'est de la pêche, hein, parce que, t'sais, péché, pêche...
Bon, je vois notre réalisateur gelé dans le zoom, fait que ça doit dire que c'est la fin de l'émission. Merci, Jebediah, et comme on dirait, à la prochaine chicane, hein?
Oui, c'est ça, Chris Dépé.
Hey, finalement, on n'a jamais été capable de sortir les poissons.
Fait qu'on chasse le poisson dans un lac desséché ou on le pêche? Répondez à la question sur notre question Spotify, hein? C'est pas mal un débat noir ou blanc, t'es d'un bord ou de l'autre, hein? Ça risque de finir moitié-moitié. D'ailleurs, hein? Parlant de ça, il semblerait qu'il existe une grande conspiration derrière les moitié-moitié que l'on retrouve dans les arènes sportives. J'en dis pas plus, écoutez ça.
Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué.
Ici Charles Diver et bienvenue au Jeu truqué. Vous êtes à une joute sportive. Vous appréciez l'ambiance et vous remarquez le montant du moitié-moitié. Vous en achetez une dizaine, le tirage se fait en fin de match et, comme d'habitude, vous ne le gagnez pas. Encore une fois. Et comme tout le monde autour de vous. En fait, vous ne connaissez personne qui l'a emporté. Mystérieux, n'est-ce pas? Notre équipe d'enquête s'est enfin penchée sur le dossier des moitié-moitié et nous trouvailles pourraient changer notre perception du monde. Mais pour changer le monde avec une vérité, il nous faut d'abord la vérité.
Billet ticket! Billet ticket! Je n'ai pas oublié ici! Moitié-moitié!
Le principe de moitié-moitié est simple. Acheter la moitié d'un billet avec le même numéro en espérant remporter la moitié du montant amassé lors de l'événement. Cette pratique est très répandue durant les matchs de sport et les montants peuvent être très élevés, comme un match des Oilers d'Edmonton le 7 août 2020 où la somme amassée était de 14,2 millions de dollars. La moitié se dirigea vers le gagnant, tandis que l'autre vers la charité. Et c'est là que quelque chose cloche. Avec près de 5900 matchs joués au courant d'une année dans les 5 grandes ligues d'Amérique du Nord, on pourrait croire que la charité aurait amassé assez d'argent pour régler tous les problèmes de la société. Mais ce n'est pas le cas. De plus, les gagnants du tirage semblent toujours rester dans l'anonymat. Pour illustrer notre propos, nous avons questionné quelques partisans à ce sujet lors d'un match de l'Alliance de Montréal. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà gagné un moitié-moitié à une joute sportive?
Ça fait 30 ans que j'essaie, puis je n'ai jamais gagné.
Maintenant que tu t'en parles, non, je connais personne. Pourtant, j'en connais plein de monde, hein. J'ai plein d'amis sur Facebook, hein, check.
N'auriez pas un peu de monnaie?
Ouais, mon frère connaît quelqu'un qui, son voisin en arrière, en a déjà gagné un à un match des Panthères de Saint-Jérôme, hein. C'est fait de 100$, ça a l'air.
Tant de tirages et peu de gagnants connus. Tout cela semble bien mystérieux. Mais peut-être que nous cherchons nos réponses au mauvais endroit. Il faudrait enquêter sur ceux qui donnent en premier lieu les moitié-moitié. La clé de l'énigme serait-elle les vendeurs? Que veulent-ils? Nous observent-ils? Travaillent-ils pour le gouvernement? Et si ces vendeurs œuvraient en réalité pour le Deep State? Qu'est-ce que le Deep State, ou l'état profond dans la langue de chez nous? pour répondre à cette question, laissons le lanceur d'alerte et découvreur autoproclamé de cette vérité nous l'expliquer.
Unelected deep state operatives.
Des représentants de l'État profond défient les électeurs pour pousser leur propre agenda secret, sont une vraie menace pour la démocratie. À un moment donné, tout cela sera exposé pour les calinards et les abus de pouvoir qui déchirent notre nation. Nous allons établir une commission sur la vérité et la réconciliation pour déclassifier et publier tous les documents de l'État profond d'espionnage, de censure et de corruption.
Un État caché avec son propre agenda derrière le gouvernement utiliserait-il les moitié-moitié pour financer ses activités illicites? Cela semble peu probable, du moins à première vue. Serait-ce derrière l'origine des moitié-moitié que se cacherait la vérité? France, 1776. La révolution est aux portes de la monarchie française. Le monde tel que la royauté le connaît est sur le bord du précipice. Dans le but de calmer la plèbe et de pallier à la dette engendrée par les guerres et l'ancienne colonie canadienne, le roi Louis XVI mit en place un système similaire au moitié-moitié, la loterie royale. Ainsi, le peuple donnait volontairement de l'argent à la royauté dans l'espoir d'en gagner à leur tour. Évidemment, la monarchie française tomba aux mains de la démocratie. Mais curieusement, la loterie royale survit à la Révolution. Étrange, non? Aurait-elle continué de financer la famille royale? Cette dernière continua-t-elle d'œuvrer derrière la nouvelle République démocratique? La fin de la loterie royale en 1836, soit près de 40 ans après la Révolution, était-elle pour apaiser les soupçons sur une monarchie cachée aux yeux de tous? On peut facilement penser que la plupart des rois aillent laisser leur place à des démocraties pour continuer leur jeu de pouvoir en cachette. Le Deep State. Les gains des moitié-moitié feraient partie d'un vaste réseau pour financer l'État profond. Besoin d'une preuve plus solide pour prouver son existence? Remarquez votre téléphone. Avez-vous déjà reçu un test d'alerte du gouvernement? C'est par ces méthodes que le Deep State communique ses directives aux vendeurs de moitié-moitié grâce à des messages codés au travers des notifications d'alerte gouvernementale. Alors pensez-y la prochaine fois que vous allez à une joute sportive. Retenez-vous de financer le Deep State. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître. Et jusqu'au prochain mystère, ici Charles Divert qui vous dit au prochain mystère. Québec là-dedans.
Ça fait 5 minutes que tu parles, non, tu me laisses pas parler.
C'est temps qu'on parle d'eux un peu.
Mais qu'est-ce que vous faites?
Ouais, ok. Les Nordiques, en au moins une minute.
Salt Lake City, Houston, Atlanta, Kansas City, Cincinnati, d'où ça sort? Ok, je comprends là qu'on est au Canada, Batman, mais t'sais, il y a une aréna de prête, man. Come on! Fais juste, amène une équipe n'importe laquelle, on est pas difficile. Bon, là, c'est le bout qui aurait censé avoir eu un sketch, mais finalement, j'ai décidé de le mettre dans un autre épisode, puis dans le fond, ben voilà, c'est tout pour l'épisode 105 de Match Nul. Merci d'avoir été là en si grand nombre, en tout cas, je l'espère. Et on se revoit le mois prochain pour un autre épisode du Match Nul.
Tu n'oublieras pas de mettre le moitié-moitié à $30,000 pour la game des Cardinals contre les Giants. Ouin, c'est pas clair si c'est du baseball ou du football. Pas grave, arrange-toi, j'ai confiance. Achid, j'ai mal camouflé le message. Mufasa Rodriguez Tremblay dans une civique rose avec le chandelier dans le bureau de poste. Tiens, ça devrait faire l'affaire.